Alors, je vais vous redonner un tout petit peu le contexte pour ceux qui étaient peut-être qu'on loupait un message ou un autre. Juste redonner un tout petit peu le début. Donc, on a appelé cette série Promesses et encouragement. Et puis, on a vu que Paul a besoin d'encouragement suite à la persécution subie en Asie, suite à ses difficultés aussi relationnelles avec les Corinthiens. Et puis spécialement avec des faux enseignants, ceux qui contestent son ministère, son apostolat. Et nous avions saisi trois vérités dans le premier message. Nous avons un bon Père qui nous encourage toujours. Il nous encourage et nous rend aptes à encourager d'autres. Et puis, ces encouragements sont à la mesure de nos épreuves. Et c'est vrai, c'était vrai pour Paul, c'est vrai pour chacun d'entre vous ce matin, c'est vrai pour le peuple d'Israël, le peuple palestinien, c'est vrai pour les Ukrainiens, c'est vrai pour chaque Russe qui souffre aussi de ce conflit, c'est vrai partout dans le monde, c'est une réalité. Nous avons un bon Père, mais heureux la nation qui a l'Éternel pour Dieu. Hein? C'est que comme ça qu'on peut découvrir à quelle mesure ce Dieu est extraordinaire. Alors oui, merci Seigneur pour ces vérités qui nous touchent aujourd'hui, puis qui sont des réelles bénédictions pour Paul et dans nos circonstances. Et puis nous avons vu dans le second message avec Jean-Jacques que déjà il y avait un réel encouragement à pardonner. Paul était pris à partie avec une personne spécialement, et puis il a vraiment eu cet encouragement de pardonner, d'aimer, de faire grâce, de laisser aucune place à l'ennemi. Et puis, il nous a associés au triomphe de Christ. Dieu fait de nous Église, diffuseur du parfum de Christ. Extraordinaire, ça sent vachement bon ce matin. Vraiment, c'est bon. Quelle belle image. Et ce qui me frappe un peu en relisant ces textes, avec ce contexte, bien à l'esprit, c'est que Paul, il est en train de démontrer d'une manière naturelle, finalement, un peu quel type de leader il est. Et lorsqu'on cherche à nous discréditer, lorsqu'on cherche à nous casser en disant des fausses choses sur nous, ben on a deux possibilités, généralement. Soit on rétorque, et puis on est dans la justification. Et puis chaque fois que quelqu'un nous lance un pic, et ben on dit « Mais non, c'est pas vrai !» Et puis toi, et puis hein. Ou alors, on laisse dire, puis au lieu de se défendre avec des mots, on vit simplement. On démontre naturellement ce qui est vrai. Et je crois que Paul a choisi cette deuxième possibilité parce qu'il a commencé par exprimer sa pleine et entière confiance en Dieu. C'est un bon père qui encourage, c'est un bon père qui console. Donc il a démontré sa dépendance à Dieu, ce Dieu qui est généreux, qui relève, qui marche à nos côtés. Paul fait preuve d'humilité. Et puis, il démontre aussi son désir d'encourager, de consoler d'autres à son tour. Paul, il a de la compassion. Et puis, il démontre concrètement, face à cette situation précise dans le chapitre 2, sa capacité à pardonner, à faire grâce, à encourager. Donc, il est en train de montrer, simplement par ce qu'il écrit, par ce qu'il dit, qui il est. Ce qu'on dit de lui, ce n'est pas vrai. Mais simplement par ce qu'il vit, par ce qu'il dit. Alors, en ce même sens, j'aimerais vraiment nous inviter à ne pas nous battre pour expliquer ce qu'on n'est pas. Ne vous battez pas pour expliquer ce que vous n'êtes pas, mais simplement montrer qui vous êtes en Christ. Simplement, au travers de votre amour. Finalement, pour ses détracteurs, Paul est en train de mettre en évidence une différence notoire entre eux et lui. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est qu'il est ministre d'une nouvelle alliance. Paul, il ne vient pas apporter la loi et ses commandements qui tuent, mais il vient communiquer la vie par l'Esprit Saint. Et il va dire plusieurs fois, mais c'est Christ qui est à l'œuvre au travers de lui. Voilà ce qu'il va faire ressortir dans ce troisième chapitre, dont on va lire une bonne partie maintenant. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles. Je lis dans la version second 21. Vous pouvez suivre, bien sûr, à l'écran avec moi. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou alors de votre part? C'est vous qui est notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. Je saute au verset 13, parce qu'il développe un petit peu cette différence-là. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez déjà eu besoin d'une lettre de recommandation ? Peut-être, hein, pour une démarche administrative, peut-être ça vous est arrivé d'avoir besoin d'une lettre. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, vous ne pouvez pas rejoindre une nouvelle communauté sans apporter une lettre de recommandation de votre ancienne église. C'est sérieux, hein, là je vois que vous êtes dubitatif, mais oui, c'est vraiment sérieux. Puis j'ai d'ailleurs eu le privilège d'en recevoir une d'un frère récemment arrivé parmi nous. Quel plaisir ça m'a fait de voir que c'était encore pratiqué à certains endroits, c'est vraiment sympa. Hein. Et cette pratique était très courante dans le Nouveau Testament. Paul en fait mention ici, mais il ajoute fréquemment de telles recommandations dans des salutations de ses lettres, comme par exemple en Colossiens 4, 10, hein, Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, donc ils ont déjà reçu des recommandations. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Hein, c'est ce genre de recommandations, hein, où des fois il disait, ben voilà, c'est un fidèle frère, il a servi avec moi, réservez-lui le meilleur des accueils, etc. Et puis bien sûr, on peut penser à la lettre de Paul à Philémon, qui est finalement une lettre de recommandation en elle-même, hein, où il recommande Onésime à Philémon. Mais Paul dit ici qu'il n'a pas besoin d'une lettre de recommandation. Il dit « Vous êtes notre lettre ». Donc, en gros, il est en train de dire « Mais il n'y a qu'à regarder à ces chrétiens, cette église, pour voir le fruit du ministère ». Et puis c'est le premier encouragement que j'aimerais nous laisser, vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Il y a un fruit évident, visible, pour toute personne qu'on ne peut pas nier. Ils voyaient ça, et puis finalement les contradicteurs de Paul ne pouvaient pas nier cette réalité. On reconnaît un arbre à son fruit, on reconnaît aussi un ministère à son fruit. Puis Paul il va même plus loin en soulignant l'action de Christ qui leur a confié cette communauté. Et il dit, mais en fait, c'est comme si Christ a écrit une lettre sur notre cœur. Il les a comme déposées sur le cœur de Paul et de ses collaborateurs. D'accord ? Donc c'est comme si c'est Christ lui-même qui a mis à cœur cette communauté. Et puis il fait directement référence à la loi de Moïse. Puis c'est intéressant vu que ça reste dans tout ce chapitre. Donc cette loi écrite sur des pierres, ça c'est la première ou l'ancienne alliance. Puis cette nouvelle alliance où c'est écrit par l'esprit dans le cœur. Et puis donc, il est bien en train de dire, moi, je suis ministre de la Nouvelle Alliance. Christ a écrit sur notre cœur, par l'Esprit. Il nous a mis cette communauté à cœur. Donc, il se positionne ainsi. Vous nous avez été confiés par Christ, gravés dans notre cœur par l'Esprit. C'est donc le cœur rempli du Saint-Esprit que nous accomplissons notre mission. Cette semaine, j'ai rencontré une personne qui m'a dit ceci. C'était informel, c'était pas un rendez-vous pastoral. Cette personne me dit, je voulais te remercier parce que c'est quand même grâce à toi que j'ai rencontré Christ. Moi, j'aime pas trop ce genre de truc. Parce que j'ai rien fait. C'est l'œuvre du Saint-Esprit complètement. Et puis surtout, je ne veux pas me mettre en avant moi, parce que je connais mon cœur, je connais mes faiblesses, je connais que sans la grâce, je ne suis rien. Donc quand quelqu'un me dit ça, c'est un peu waouh. Et puis, le Saint-Esprit m'a comme dit au fond de mon cœur, accepte mon encouragement. Accepte mon encouragement. Ça m'a tellement touché. C'est comme si, en relisant ce texte, je me disais, ben oui, ce frère, c'est un petit peu ma lettre. Et j'aimerais tellement d'autres lettres comme celle-ci. Non pas pour me glorifier, mais pour pouvoir témoigner de la grandeur de Dieu, de sa puissance qui transforme des vies aujourd'hui, en utilisant des gens bien ordinaires, imparfaits, comme vous et moi. Alors ma première interpellation ce matin, c'est celle-ci. Qui est ta lettre ? Qui est ta lettre ? N'y a-t-il pas quelqu'un que le Seigneur a déposé sur ton cœur ? En qui tu pourrais investir du temps dans la relation, dans la prière d'intercession, dans le partage de la parole, afin que cette personne soit aussi un fruit évident de ta vie de disciple de Christ. Qui est ta lettre ? Alors vous dites peut-être, bon franchement, qui pourrait être ma lettre ? Franchement, je ne me sens pas capable d'accompagner quelqu'un à Christ, j'arrive pas à me parler, je me sens nul, pas adéquat, pas qualifié, etc., etc. Mais voilà un deuxième encouragement qui suit. Bonne nouvelle ! C'est lui qui te rend capable d'être une servante ou un serviteur de la Nouvelle Alliance. J'ai remis les versets qui vont avec. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car de la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Alors, ok, je vous l'accorde, ministre de la Nouvelle Alliance, ce n'est pas le terme le plus sexy pour utiliser une expression d'aujourd'hui. Hein. Excusez-moi, je suis ministre de la Nouvelle Alliance. C'est vrai que peut-être que vous attendiez à autre chose, j'aimerais bien vous présenter autrement. Hein, mais quand même, c'est ça que Dieu veut faire avec vous. Et c'est un magnifique privilège d'être ministre, d'avoir donc une responsabilité de la Nouvelle Alliance. Et en fait, pour renforcer cette position de Paul, eh ben, il va utiliser des termes assez forts en mettant en contraste l'ancienne, la première alliance et la deuxième alliance. Et il va dire, ben, voilà, si la première alliance était déjà glorieuse, alors la nouvelle alliance, ça va être extraordinaire. Et il utilise des termes assez forts, je les ai remis ici. Hein. Il parle de la lettre qui tue, et de l'autre côté, l'esprit qui fait vivre, ou qui vivifie. Il parle du ministère de la mort. Il parle quand même de l'ancienne alliance, la première alliance. Hein, je ne sais pas, moi, ça peut, vous pouvez vous heurter quand même. Ministère de la mort, ministère de l'esprit, ministère de la condamnation, ministère de la justice. Il parle d'une réalité passagère et d'une réalité permanente. Alors pour expliquer la première alliance, moi j'aime prendre l'image du cadre. En fait, avant le cadre, y a rien, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas de condamnation. Voilà, tous les chemins mènent à Rome. Allez-y, c'est magnifique. Mais lorsqu'on met un cadre, eh ben, en fait, il faut entrer dedans. C'est ici le chemin. Ce n'est pas à droite, ce n'est pas à gauche. Ça veut dire que, en fait, ben, on peut dire c'est juste ou c'est faux. c'est bien ou c'est mal. Tu es dehors ou tu es dedans. Et si Dieu a donné ce cadre dans l'Ancienne Alliance, c'était pour vraiment que son peuple vive en paix, vive dans sa bénédiction. Puis il a dit, ben voilà, si vous restez là, dans ce cadre que je vous donne, ben vous allez voir, vous allez me voir à l'œuvre, vous allez me connaître, vous allez recevoir tout ce que j'ai en réserve pour vous. Mais en fait, ce cadre que Dieu a donné, il a surtout mis en évidence l'incapacité du peuple à rester dans ce cadre. Et puis notre incapacité à nous aussi. Autrement dire, notre difficulté à obéir. Donc en ce sens, le cadre que Dieu met amène la mort, amène la condamnation. Il fallait donc se purifier au travers de tout ce système sacrificiel pour obtenir le pardon de Dieu. Mais malgré la réalité d'un peuple désobéissant et rebelle, Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a parlé quand même. Dieu a béni quand même. Mais la nouvelle alliance en Christ n'impose pas un cadre extérieur. Elle vient travailler à l'intérieur. Donc c'est vraiment l'Esprit en nous qui vient inscrire la loi dans notre cœur. C'est ce cœur transformé, hein, passé du cœur de pierre au cœur de chair. Je suis donc justifié par grâce au travers de Christ. Je marche à l'écoute de l'Esprit qui me guide et qui agit en moi et au travers de moi. Donc ce n'est pas par moi-même, ce n'est pas mes rituels, c'est pas je ne peux rien faire. Ce n'est pas mes efforts. Je peux être serviteur de cette nouvelle alliance uniquement par Christ. C'est que son œuvre à lui. Et c'est ça que Paul met en évidence. Et comme je l'ai dit, si c'était glorieux avec Moïse, alors, waouh, ça le sera encore bien plus au travers de l'œuvre de Jésus. Alors pourquoi Paul prend du temps pour mettre en évidence ce contraste? Bien sûr, pour se positionner lui-même comme ce ministre de la nouvelle alliance. Mais parce que même sous la nouvelle alliance, je vais peut-être vous dire quelque chose d'important, on peut encore être ministre de l'ancienne alliance. Je le redis une fois, même sous la nouvelle alliance, on peut être ministre de l'ancienne alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux être celui qui condamne le pécheur avec la loi, au lieu de lui faire connaître l'amour de Christ. Cet amour de Christ est ce que Dieu, Jésus a fait à la croix. On peut punir la désobéissance au lieu de choisir d'apporter la grâce au travers de la justice de Christ, cette grâce qui relève, cette grâce qui aime, puis qui dit « va et ne pêche plus ». Paul a été consolé, Paul a été encouragé, et il est capable d'encourager d'autres. Paul a été le ministre de l'ancienne alliance, par excellence. Paul condamnait à mort les premiers chrétiens en appliquant quoi ? En appliquant le cadre, en appliquant la loi. Mais il était touché, pardonné, justifié par Christ, établi comme apôtre, au service de cette alliance nouvelle par pure grâce. Donc c'est Christ, il sait que c'est Christ, et il sait le dégât que peut faire la loi. C'est Christ qui te qualifie à son service. Et ce matin, j'aimerais te dire, ne te cherche pas d'excuses, ne te cache pas, ne pars pas à l'opposé de la direction qu'il te montre comme Jonas. Laisse-toi impacter par sa bonté et sa gloire. Il te rend capable, toi, ce matin, à être ce ministre de la bonne, de la nouvelle alliance. Et troisièmement, non seulement il nous rend capable, mais il nous fait voir sa gloire qui transforme. Ah oui, j'avais mis une petite slide que j'ai oubliée, mais ce n'est pas grave. Je redonne encore les quelques versets, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc c'est Christ qui enlève le voile lorsqu'on se tourne vers lui. Personne d'autre. Et je fais forcément le lien avec la mort de Jésus. La parole nous dit en Luc 23, 45 qu'au moment de sa mort sur la croix, pile au moment de la crucifixion, le voile se déchira dans le temple par le milieu. Je ne sais pas si vous avez réalisé ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il était à Golgotha en train de mourir sur la croix, et au même instant, physiquement, hein, ce n'est pas juste un symbole, ça s'est vraiment passé, le voile dans le temple s'est déchiré. Du haut vers le bas. Merci pour cette précision qui a son importance. Donc, le voile qui nous tenait éloignés de la présence de Dieu, qui nous empêchait de saisir son cœur, d'intégrer et puis même de mettre en pratique sa parole, de vivre sa puissance, ce voile est déchiré, ce voile est ôté. Donc, il se laisse pleinement approcher, il se laisse pleinement connaître. Il nous rend participants de sa gloire et de son triomphe, comme on l'a vu la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours ? Moi, j'aime bien définir la gloire de Dieu comme sa complète bonté. À la lumière d'Exode 33 et 34, lorsque Moïse demande à l'Éternel de lui montrer sa gloire, qu'est-ce que l'Éternel lui répond ? Il lui dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et puis au chapitre 34, verset 6, on peut lire aussi « L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Vous connaissez l'histoire, Moïse est resté 40 jours, 40 nuits sur le mont Sinaï. Il est redescendu avec les tables de la loi et il rayonnait. Il a dû mettre un voile sur son visage pour parler au peuple, puis quand il parlait à Dieu, il enlevait ce voile. Mais quand il transmettait les ordres, finalement, que l'Éternel lui avait donnés, eh ben, il devait mettre ce voile. En fait, c'était trop pour le peuple. Il est même dit que le peuple avait peur. Il avait peur de cette gloire qui était bonté et sainteté. Et ils avaient probablement peur de mourir de leur impureté, de qui ils étaient. Et concrètement, aujourd'hui, je peux m'approcher de Dieu et contempler sa bonté qui rayonne, sa bonté qui est éclatante. Je peux le connaître personnellement, ce Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Donc, comme Moïse a été impacté physiquement, être dans la présence de Dieu me transforme. Sa bonté me transforme, elle vient m'habiter afin que par l'Esprit qui vit en moi, je sois toujours plus à l'image de Dieu. Donc Dieu ne veut pas nous cacher sa bonté, son cœur. Le voile a été ôté. Il désire que nous puissions grandir à son image, que nous entrions dans sa présence et que nous ne restions pas derrière le voile. Et j'ai identifié 4 voiles qui parfois justement nous empêchent de vivre la vie que Dieu a pour nous et que je crois, je demande au Saint-Esprit de d'ôter pour nous ce matin. Le premier des voiles, c'est le voile du rationalisme intellectuel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est cette manière de comprendre avec la tête, sans comprendre avec le cœur. Et je sais que c'est notre difficulté en tant que chrétien. Et Sigrid l'a dit tout à l'heure, peut-être vous avez compris que c'est le Dieu de l'impossible avec votre tête. Mais c'est tout l'enjeu, c'est de saisir la parole de Dieu avec le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a pas le droit de réfléchir, hein, on s'entend, on a un cerveau, ce n'est pas pour rien. Mais le problème, c'est que des fois, cette manière de lire la parole, ça nous empêche de vraiment entrer dans ce qu'il a pour nous. Parce qu'on aimerait, en fait, la première alliance est plus facile pour nous, c'est carré, quoi. Hein, mais quand on ne maîtrise pas, en fait, on ne maîtrise pas tout, et on n'arrive pas à tout saisir dans notre compréhension, et ça peut nous bloquer. Donc ça peut mettre un voile entre nous et Dieu. Il y a le voile de l'héritage religieux. Lorsque le voile tombe, il est dit dans cette parole, hein, il y a la liberté. Au lieu d'un cadre qui enferme, il y a la liberté. Il n'y a plus de contrôle, parce que le cadre, il contrôle, mais il n'y a plus de contrôle parce qu'il y a la sécurité de l'amour. Il y a la confiance et la grâce. Donc il n'y a plus besoin du contrôle. Et c'est très difficile de changer de paradigme lorsqu'on a grandi dans un milieu religieux. Mais ce voile, il tue la vie. Et quand on a grandi là-dedans, et on est un peu étriqué. Et puis on a de la peine à faire grâce. Puis même on trouve que le pardon et la grâce, c'est quelque chose de trop facile. Et ça nous empêche d'entrer dans cette liberté des enfants de Dieu. Et puis il y a le voile de l'incrédulité. C'est le fait, bien sûr, de ne pas croire en la bonté de Dieu. Une vision négative de Dieu qui nous empêche de recevoir ce qu'il a en réserve pour nous. Waouh, je peux voir sa gloire, mais vraiment, est-ce que vraiment il est ce Dieu si bon que ça? Est-ce que vraiment il est bon pour moi? Etc. Donc finalement, on reste derrière. Et puis ça va assez bien avec le voile de l'indignité, où on se voit tellement indigne, impur, mauvais, qu'on préfère rester caché derrière le voile. Parce qu'il nous semble impossible qu'on puisse nous laisser venir dans la présence de Dieu tel qu'on est, malgré nos erreurs. Alors que Christ a ôté le voile, ne reste pas derrière. Ne te prive pas de goûter à sa bonté et à sa présence transformatrice. Après ces trois encouragements, Paul il va en fait conclure avec le premier verset du chapitre 4, où il dit « Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, donc ce ministère de la Nouvelle Alliance, nous ne perdons pas courage. » Nous ne perdons pas courage. Donc Paul, il s'encourage lui-même en fait dans cette lettre en réalisant le privilège qu'il a d'être ministre de la Nouvelle Alliance, témoin de l'œuvre de Christ et d'être toujours plus à l'image de Dieu. Ne perdons pas courage. Ne perds pas courage. Et puis au verset 6, il donne un peu un sens à tout cela. Il dit, en effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de la bonté de Dieu, de sa sainteté, qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Donc, en conclusion, on peut dire que nous sommes, tu es appelé à rayonner la gloire de Dieu, comme Christ rayonnait sur la terre la gloire de Dieu. Je dis sur la terre, mais il rayonne toujours. Alors si je parle uniquement de rayonner sa gloire, ça peut paraître abstrait. Mais si on se souvient, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que sa gloire, c'est sa bonté, c'est ce Dieu long à la colère, riche en bonté, plein de compassion, alors ça prend son sens. Ma manière d'accueillir l'autre peut refléter cette bonté. Ma manière de regarder l'autre peut manifester sa compassion. Ma manière de réagir lorsque je me sens agressé peut refléter sa patience. Mes paroles peuvent refléter sa bonté. Comme dans un miroir. Je n'ai pas mis tellement l'accent là-dessus, mais on sait que à ce moment-là, un miroir, c'était refléter une image bien imparfaite, c'était un métal poli, puis c'était pas comme aujourd'hui, du verre où vraiment vous voyez bien. Donc c'était pas parfait, c'était pas une image encore parfaite. Mais c'est un processus de transformation que nous sommes invités à vivre alors que nous nous tenons dans sa présence, dans sa gloire. Les musiciens, vous pouvez vous approcher. Donc on a entendu trois encouragements ce matin. Il y a des personnes qui sont une lettre de Christ écrite par vous, par votre ministère. C'est lui qui te rend capable d'être une servante ou un serviteur de la Nouvelle Alliance. Et puis il nous fait voir sa gloire et nous transforme à son image. Et j'aimerais juste vous inviter à un petit moment de silence. Je vais faire un appel tout simple ce matin.